Devine qui vient dîner. Michel Durand-Vallon. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mais que fait la police ? C'est une question que l'on se pose parfois pour rire comme ça, une boutade. Il se trouve que c'est aussi une question sérieuse, voire même grave, une question que se posent les policiers eux-mêmes, enfin certains, qui, tellement déconcertés par la police, par le corps dont ils font partie, s'interrogent sur leur rôle, sur leur vocation, sur leur vie même. Il y en a, et non des moindres, qui préfèrent d'ailleurs quitter la police plutôt que d'assumer ses errances, ses troubles. Non des moindres, disais-je, parce que celui-là, enfin celui qui est en face de moi ce soir, fait sans aucun doute partie des gens intelligents, engagés, qui chaque jour réfléchissent à la police et à d'autres choses, qui chaque jour se remettent en cause. Or, si ceux-là quittent le corps de police, qui donc restera pour garder, puisque c'est leur rôle premier, donc, hein, pour garder la paix, sont les gardiens de la paix. Alors, qui restera ? Bah, les soumis, les violents, les idiots, les méchants, les cons. Non, parce que l'image de la police, et plus encore ces derniers temps, s'est quelque peu dégradée, surtout la police genevoise, qui a dû s'expliquer sur quelques erreurs et quelques bavures internes et externes. Et c'est une réflexion, je me fais comme ça, mais c'est pas que j'aime particulièrement la police. Personne n'aime vraiment la police, mais on sait bien qu'on en a extraordinairement besoin. Et un pays qui ne peut plus faire confiance à sa police est un pays en grand danger. Et je reprendrai une phrase de quelqu'un que l'on vous présentera tout à l'heure. Le policier est au début et à la fin de la fabrication de la démocratie. Excellente phrase. Bonsoir Yves-Patrick Delachaux.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous vous recevions il y a, c'était il y a 4 ans, 3-4 ans peut-être.
Tout à fait.
Hein, pour l'un de vos romans, Policiers. C'était Exactement. Pas pour l'essai qui a suivi hein, de
Présumé
2007.
Non coupable.
Présumé non coupable. Non, c'était pour un Bangkok.
Flic à Bangkok.
Flic à Bangkok.
Ça, il y a eu Flic de quartier.
Et puis il y a eu Flic de quartier.
Flic à Bangkok qui sortait chez Zoé et puis en poche chez Soy.
Voilà, donc ça avait vachement bien marché. Et vous nous revenez aujourd'hui, sauf que vous n'êtes plus policier. Vous avez démissionné. Je suppose que ça a dû être très difficile à prendre comme décision.
Il est vrai que c'est un long processus. Je vous corrigerai, c'est que c'est pas une question d'être plus policier. Je crois qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup plus à la police qu'avant.
Vous êtes plus appointé par la police cantonale genevoise.
Tout à fait. J'ai quitté la police genevoise. Je ne pense pas avoir quitté complètement l'univers policier, puisqu'aujourd'hui, tout d'abord, je réfléchis beaucoup à côté de voyages et d'écriture, beaucoup à la sécurité, à la citoyenneté, déjà par mon statut à Genève de constituant. Et la sécurité, la démocratie, la citoyenneté est quelque chose qui me touche depuis longtemps, mais aujourd'hui peut-être à l'âge que j'ai, 44 ans, mes enfants qui sortent de leur adolescence, mon épouse aussi qui m'accompagne depuis une trentaine d'années, ça me permet d'être plus serein et de m'engager, non peut-être pas politiquement dans une idée partisane, mais politiquement dans une idée, une image citoyenne.
Mais vous n'arrivez pas à dire que vous avez quitté la police en somme ?
J'ai quitté la police genevoise.
Vous avez quitté la police ?
Du bout du lac.
Pourquoi ? Vous travaillez pour une autre police ?
Je ne travaille pas pour une autre police du tout.
Alors voilà, vous n'êtes plus policier, Patrick Delachaux. Vous n'arrivez pas à le dire, ça.
J'ai pas le statut. Mais tout d'abord, parce que avant de venir à l'émission, j'ai encore eu des téléphones de mes camarades.
Vous avez encore mis votre costume, votre uniforme.
Mais c'est presque ça. J'ai eu mes camarades qui m'ont appelé. Beaucoup me soutiennent, même des jeunes voix. D'ailleurs, c'est des vieux sangliers, des types qui sont encore sur le terrain. On les salue. Ouais. Et j'ai plus de difficultés, peut-être, avec des hiérarchies autistes, sclérosée, inintelligente.
Pour ceux qui sont aussi,
je l'espère. Pour ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, j'ai de très bons rapports. Et puis c'est vrai que j'ai ouvert le champ policier en Suisse et en Europe. Donc aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en France. Pourquoi en France ? Parce que Genève et la Suisse, de façon inévitable, va devoir aussi affronter un certain nombre de difficultés. Et tous les jours aujourd'hui à Genève, à Paris. Au Luxembourg et ailleurs, enfin, je constate ce qui parfois pour moi sont des dérives sécuritaires de la police et je continue de penser qu'une police c'est une police citoyenne. J'ai envie de voir un flic de quartier dans la rue, sur le trottoir. Il n'y a pas que les affaires genevoises, des paquis par exemple, mais je veux voir des flics dans la rue et pas des types habillés en maintien de l'ordre sur des motos noires comme on trouve aujourd'hui à Genève,
qui foutent les jetons
et qui sont inutiles de la vie même des policiers.
On va évidemment revenir sur tout cela, puisque c'est l'objet d'un livre, d'un essai que vous avez écrit, pas tout seul d'ailleurs. Enfin, c'est une longue réflexion, une belle et longue réflexion sur la police. C'est aussi un témoignage, un récit de vos propres expériences et le témoignage de beaucoup de vos collègues, de vos camarades. Oui. Donc maintenant, Yves-Patrick Delachaux, vous n'êtes plus policier. J'arrive pas à lui faire dire qu'il n'est plus policier. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'écris. Vous réfléchissez, on a bien compris, vous écrivez.
J'écris, j'ai la prétention de penser de vouloir être écrivain. Et
vous avez
voilà,
raison.
Je voyage beaucoup sur la planète. Je reviens de grands voyages, l'un en Asie du Sud-Est et l'autre aux États-Unis, sur des routes d'auteurs célèbres où j'essaie d'explorer l'aventure, la justice. Et mes prochains voyages seront le beau. J'essaie d'écrire. Pour les Suisses, il y a Bouvier, il y a Maillard, il y a des auteurs extraordinaires. J'ai envie de faire cette aventure avec des gens comme Marlies Pietri des éditions Zoé et des amis qui m'entourent. Donc je dirais que ça c'est mon côté aujourd'hui, de mon côté de d'écriture, mais elle peut pas se défaire de l'écriture citoyenne. Et puis mes 20 ans presque de police font qu'inévitablement je pense à la sécurité. La sécurité est un champ qui n'ont pas m'habite depuis toujours, si ce n'est que c'est vrai que j'ai fait un parcours militaire et après policier, et finalement j'ai attendu 43 ans pour me libérer du père, de la structure, de la fonction, pour être peut-être plus artiste, je ne sais pas, enfin, l'avenir me le dira.
Mais que fait-on de ces compétences que vous avez développées depuis plusieurs années d'ailleurs, parce que cette réflexion elle date pas d'hier, cette réflexion sur la police, vous avez même passé un master, vous avez vraiment voulu crédibiliser complètement votre discours et l'enrichir. Que fait-on de ces compétences-là ? À la fois de formateur, de cette réflexion.
Effectivement, elles sont nées de parcours de résistance. Je crois aujourd'hui avec un peu de recul, c'est-à-dire que je pouvais pas admettre ce que je voyais ou les compromissions d'une direction qui absolument pas ouverte et oppresseur. C'était pas possible pour moi, et je crois que depuis toujours, alors on est fait comme ça ou pas, je ne sais pas, mais enfin j'ai eu pas mal de difficultés en scolarité parce que c'était trop petit pour moi, c'était trop fermé. J'ai eu un certain nombre de problèmes.
C'est vrai que l'armée c'est vachement plus ouvert.
J'ai eu un certain nombre de problèmes à l'armée.
J'ai eu raison. Et la police alors c'est encore plus ouvert.
C'est pas des problèmes, c'est
que
j'ai eu des défis.
Vous n'avez fait que des mauvais choix, Yves-Patrick Delachaux. Je le disais tout à l'heure avant l'émission.
C'était plus possible pour moi de me taire, mais ça c'est déjà il y a 10 ans, et illustré avec notre action Pas les flics, pas noirs, pas les blancs, qui a donné un film d'Ursula Meyer.
Puis mon expression, qui a très bien marché d'ailleurs.
C'est juste extraordinaire, puisqu'aujourd'hui encore,
ça
peut être que ça. Pour des gens qui s'engagent, je veux dire, de façon citoyenne, c'est évident. Et puis après, il y a eu l'écriture, parce que l'écriture a ressurgi à 35 ans. C'est une des seules, peut-être, qualités que j'avais quand j'étais môme. C'était d'écrire. Je ne l'ai pas exploité pendant longtemps. Et à 35 ans, par réaction face à la politique et la direction que je subissais avec mon cher ami Alain Devenis à l'époque, c'était d'écrire, de dénoncer. Je l'ai fait pour exprimer la vie, je le crois, de flic de quartier, puisque moi je suis issu de... Quand on parle de police, il faut peut-être préciser, je suis issu de patrouilleur en uniforme exposé sur le trottoir avec un champ des possibles et des impossibles, des soirées, des nuits. Et puis, à partir de là, il fallait que j'écrive. Et j'ai continué. Aujourd'hui, je continue. Je fais des belles rencontres, comme notre invité ce soir.
Justement, j'aimerais bien que vous me présentiez, puisque vous n'êtes pas venu tout seul.
Ouais, aujourd'hui, un ami très cher, c'est Frédéric Maillard, Monsieur Frédéric Maillard.
Bonsoir, Monsieur Frédéric Maillard.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, et je compte sur lui ce soir pour amener tout ce que je peux pas dire parce que moi c'est les tripes, c'est le terrain, c'est tout, et puis il manque pas mal d'expérience de réflexion, et Frédéric je l'ai rencontré dans ma vie à un moment qui fallait, et c'est un scientifique, un économiste, un manager qui aujourd'hui d'ailleurs travaille intensément au sein de la police genevoise. C'est même un des derniers qui est encore présent en tant qu'extérieur dans cette police et qui amène quelque chose, et je crois que les citoyens doivent compter sur des personnages comme ça.
Frédéric Maillard, vous êtes expert en management d'entreprise et didacticien. Je ne sais pas où ça a été chopé, ça. C'est quoi didacticien ? C'est quelqu'un qui apprend aux autres, en somme ?
Oui.
Enfin, qui apprend à apprendre.
Oui, c'est aussi subtil que la démission d'Yves-Patrick Delachaux, sans doute. Mais voilà, quand on est face à des complexités, parfois on ne sait pas comment se situer. Didacticien, c'est pas simplement enseigner, mais c'est trouver les astuces qui permettent à l'étudiant, au fond, de participer à son enseignement, à son savoir. C'est donc appuyer davantage la didactique plutôt qu'une théorie qu'on dispense. Voilà, c'est cette nuance-là qui me paraît importante.
Et pour la police, vous êtes donc responsable du cours de droits humains à la police cantonale genevoise, et puis d'un cours que vous avez apparemment construit ensemble d'ailleurs, cours en... Alors je lis, hein, parce qu'évidemment ce sont des titres un peu ronflants, mais vous me direz en quoi ça consiste. Cours en analyse de pratiques professionnelles et de résolution des problèmes éthiques. Oh non, c'est pas si compliqué finalement.
Ce qui est essentiel d'ailleurs.
Non, c'est pas si compliqué, c'est assez simple.
Oui, c'est deux cours qui s'inscrivent en formation continue et qui permettent, pour le premier, l'analyse de pratique, enfin au policier de se situer dans son exercice professionnel, une fois qu'il a l'occasion de se remettre en question, d'analyser ses gestes, sa posture. Donc on le fait de manière un petit peu déroutante. C'est une journée où le policier est déstabilisé pour qu'il retrouve les fondements de son métier. Parfois, il les a perdus très, très loin. Donc, et c'est d'ailleurs durant ce cours que nous sont partagées des révélations très étonnantes.
Mais vous nous serez très précieux d'ailleurs ce soir pour mettre en... Parce que vous venez de l'extérieur, vous n'êtes pas policier. En revanche, vous les fréquentez en plus dans un cadre très particulier, comme vous le dites, qui est celui de la formation, où parfois, quand ça se passe bien, les gens se sentent autorisés à dire, à révéler, à parler, à lâcher.
Ah, oui. Les langues se délient à cette occasion. Oui. C'est d'où...
C'est pas les gens, c'est les policiers qui ont besoin de parler. Oui, qui ont besoin de beaucoup parler.
Oui. Bah, voilà, vous servez aussi à ça.
Voilà, c'est ça. Et puis, effectivement, c'est très important qu'il y ait aussi des personnes de l'extérieur pour bien s'y inscrire, la police, dans la société. Parce que parfois, c'est un corps, de par son uniformisation, son organisation hiérarchique et militarisée, c'est un corps qui se suffit à lui-même. Hein, je dis, le plus grand risque du policier, c'est de s'appartenir, d'oublier son service public. Alors effectivement, durant ces deux cours, je peux vous le dire, on ne laisse pas le policier tout seul.
Vous avez donc écrit ensemble, enfin c'est un livre en plusieurs parties d'ailleurs, parce qu'il y a des préfaces, des postfaces, enfin il y a donc ce récit et cette réflexion de vous, Yves-Patrick Delachaux, sur la police. Et puis je ne sais pas comment vous avez pratiqué, vous avez écrit ce texte et puis vous l'avez envoyé à Frédéric Maillard pour qu'il y apporte sa contribution scientifique de spécialiste en management, sa réflexion extérieure.
Vous n'avez pas tout tort, c'est-à-dire que moi je travaille en jet dans mon écriture, et puis à la sortie, d'une formation professionnelle que j'explique d'ailleurs dans ce livre, il m'a fallu quelques heures pour mettre à plat plusieurs dizaines de pages. Je ne savais pas quoi en faire, c'était un vomissement encore une fois, d'années de pratique. Et puis, il faut chercher des personnes qui puissent vous analyser cette matière première. Et dans le processus, alors après il y a eu l'écriture, c'est pas si simple d'écrire un livre, bien sûr, mais enfin il y a un premier jet. Et puis, en rencontrant M. Maillard, je lui ai posé ceci, au nom de tous les miens, qui sont les policiers, qui tous les jours souffrent d'une structure, d'une organisation qui n'est pas encore à l'écoute des problèmes des plus jeunes policiers d'ailleurs, et puis des plus anciens qui souffrent beaucoup. Voilà, donc j'ai mis ça en main de M. Maillard, et puis on est parti sur l'aventure.
Et je fus pris de vertige. avec peut-être...
C'est un duo, c'est merveilleux. Donc, vous fûtes pris de vertige.
Mais oui, et j'ai beaucoup hésité, non pas à répondre, parce que les questionnements d'Yves-Patrick Delachaux étaient très, très pertinents. Mais au fond...
Vous pouviez, par votre expérience et vos rencontres avec les policiers, corroborer d'ailleurs ce qu'il dit et ce qu'il
avance. Alors, je dirais que ce fut mon premier réflexe de scientifique, c'est de vérifier l'objectivité du récit d'Yves-Patrick Delachaux. Et dans un deuxième temps, je voulais en tout cas pas dresser des réponses toutes faites comme un livre de recettes. Donc, je voulais... Et c'était le plus gros travail, vérifier si dans le mécanisme policier, son organisation initiale, il y avait place au changement, place à la réforme, place à...
Ne serait-ce qu'à la réflexion dans un premier temps,
oui,
disons.
Oui, à la recherche-développement, comme on l'appelle en entreprise de l'économie privée. Et quelle fut ma surprise de constater que ça c'était même...
Mais
l'essence même de la police, policie, inscription dans la cité, c'est ça. C'est se questionner, se positionner au cœur d'une société, de veiller à sa régulation, de faire...
De regarder comment elle change, comment elle se...
Mais la pratique nous emmenait à l'opposé. Alors, vous pensez bien que pour un scientifique, quand il a deux pôles qui se confrontent, c'est le rêve.
Donc, ça a donné le numéro de décembre 2009, donc le dernier numéro de la revue économique et sociale, sous le titre « Police, état de crise ». Vous avez eu la, comment dire, la courtoisie de mettre un point d'interrogation, c'est gentil. Le livre répond véritablement. Donc, hein, « Police, état de crise, point d'interrogation, une réforme nécessaire ». Donc, édition RES, on dit comment RES ?
Édition RES. Revue économique et sociale.
Voilà, tout simplement.
Voilà.
Je suis idiote par moment, vous savez.
Cise à Lausanne.
Revue
c'est
économique
qualité, parfois.
Et sociale. D'être idiote. On va c'est voir que qualité. Dans la police, ça n'est pas nécessairement, mais que ça perdure. Ah, c'est pas une qualité dans la police d'être idiot. Mais ça marche bien. Vous nous avez fait une demande tout à fait spéciale et musicale. Nous y accédons.
Mon ami Bernard.
Et Patrick Delachaux, votre ami Bernard Lavilliers. On écoute le chant du possible.
Devons-nous l'an 2000, quelques heures nous séparent. Quel ordre se profile, quel rapport de pouvoir. Devons-nous l'an 2000, qui aurait pu prévoir qu'il ne restait qu'un fil accroché à l'histoire. Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'alarme, les mots d'amour qui me hantent, qui m'entourent, qui me hantent, qui m'entourent. Devons-nous l'an 2000 et le monde en furie. Le grand ordre mondial et les Nations Unies. Pas de contre-pouvoir au dollar qui défile. Et puis dans les couloirs, les banquiers qui se faufilent. Derrière nous 2000 ans et des années-lumière. Quelques tyrans sanglants, quelques beaux militaires. Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'alarme, les mots d'amour. Qui m'entoure, qui m'entoure, qui m'entoure. Aux artistes, il est choix des choses inventées. et prendre quelques rêves pour la réalité. Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'alarme, les mots d'amour qui mentent, qui m'entourent, qui mentent, qui m'entourent.
Le champ du possible, c'était Bernard Lavilliers, un choix de Yves-Patrick Delachaux. On a hésité, enfin, moi j'ai pas hésité longtemps, mais vous, vous auriez bien voulu qu'on entende aussi Renaud. Vous aimez bien les baroudeurs un peu alcoolos, les types comme ça qui sont frottés aux gens, aux choses, à la société.
J'aime bien les gens fragiles, je pense qu'il y a beaucoup de force à retirer de ces gens-là, j'en ai connu beaucoup en tant que flic de quartier. J'aime bien les baroudeurs parce que je tends vers ça.
Vous baroudez vous-même ?
J'ai envie de barouder, j'ai envie de barouder. Mmh. Et puis les alcoolos, parce que je me pose beaucoup de questions sur l'artistique, la musique par exemple, et l'écriture. Et puis il y a une constante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens fléchissent, posent peut-être un genou, les deux genoux à terre, et puis que ça soit un Gainsbourg, que ça soit un Renault, que ça soit un Lavilliers dans certains domaines, voilà, ils partent sur le bord de la route. J'aime bien les gens qui sont posés au bord de la route. Mmh. Allez savoir.
Frédéric Maillard, j'aimerais bien, on ne l'a pas fait juste avant parce que c'est un bavard, hein. J'aimerais bien que vous me fassiez le portrait de Yves-Patrick Delachaux tel que vous le connaissez.
Mmh. On l'a tous entendu, hein, tout à l'heure, il ne se laisse pas faire.
Non.
Non, il lâche pas prise. Alors je crois que c'est une réelle qualité. Il n'a pas démissionné de la police, il vous l'a dit. Il s'est seulement retiré. Je trouve intéressant parce que du point de vue étymologique, ce serait abandonner sa mission, hein, démissionner. Et en effet, il est plus en mission encore que n'importe quel autre flic, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment le trait principal qui le caractérise, selon moi. Et j'aime beaucoup la manière dont il noircit le trait, de manière donc objective, mais il appuiera par l'écriture son récit, toujours avec cette idée de défendre la justice, défendre l'équité. C'est pourquoi il voyage, certainement, pour aller à la rencontre de l'autre. Et il témoigne, démontre, et j'ai envie de dire sur un plan scientifique, il démontre que le faible compte tout autant que le fort dans une société pour l'équilibre de celle-ci. Donc, voilà, un homme qui est confiant, qui franchit les obstacles, et pour terminer, qui se prête à la critique.
C'est vrai, vous vous prêtez à la critique volontiers ?
Mais j'y réfléchirai. disons que la vie a fait que ça n'a pas été tout simple. Donc je suis habitué. Voilà, peut-être qu'il faudrait au contraire que j'aie encore plus de persévérance. Je ne sais pas.
Vous avez passé 17 ans dans la police. Même si vous travaillez encore à réfléchir à ce qu'elle doit devenir, à ce qu'elle n'est pas. Quand vous êtes rentré avec quand vous y êtes arrivé, hein, dans quel état d'esprit, avec quelles envies, avec quel regard sur la police ?
Alors, très intéressant, parce qu'à la différence de Frédéric Maillard ici, en tant qu'objecteur de conscience, moi j'étais, on pourra en parler d'ailleurs, c'est intéressant la rencontre, moi j'étais dans une dynamique d'élite, de militaires et d'élite, de sportifs d'élite, à Macolin, principalement. Et puis ma première démarche a été via le sport de rentrer dans la police, aussi pour appliquer mes techniques sportives, militaires, à la société sans conscience finalement, de ce que la police pourrait représenter. Curieusement, et comme quoi parfois Dieu écarte les nuages et regarde dans votre direction, j'ai vite compris que je ne pouvais pas simplement appliquer ce métier selon les règles qu'on me dictait. Dès mes premières rencontres avec des prostituées, par exemple, avec des hommes qui étaient en difficulté, finalement je me suis dit que moi j'ai eu une chance extraordinaire d'être bien portant. Au début c'était que physiquement, finalement, de me dire que physiquement je pouvais aussi protéger quelque chose. Enfin, ça, j'aimerais pas bassiner là-dessus parce que j'ai même pas les mots pour le dire, mais enfin voilà quoi. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, moi j'avais le choix, et puis rapidement j'ai pu affecter un groupe, le groupe C de Pécola, l'ancien commissariat des Paquis, et puis voilà, j'ai rencontré après des migrants en difficulté, et puis je pouvais plus simplement appliquer mon travail de flic du quartier, il a fallu développer. Voilà, je m'embrouille un peu, parce que pour vous dire que finalement je suis rentré dans la police, non pas pour le salaire, mais pour rencontrer la rue. Je viens aussi d'une famille commerçante, donc plutôt d'une classe moyenne, et j'ai pas beaucoup connu avant ça la misère.
Mais je veux dire, vous arrivez dans la police, vous l'avez dit, vous venez de l'armée, vous avez fait du sport, vous avez un corps d'athlète, probablement, donc physiquement vous êtes armé.
J'ai pas mal perdu, hein.
Mais non, mais peu importe, vous aviez alors. Non, écoutez, ça va encore pas mal.
Merci.
Pour 44 ans. Non, mais vous avez un corps d'athlète à l'époque, on va dire ça comme ça. Mais en revanche, vous ne savez rien de ce qu'est le métier de policier.
Non, je savais
pas,
que...
Il ne suffit pas de savoir courir vite, je suppose.
De toute façon, ce que je travaille finalement aujourd'hui, quand je travaille sur l'image de la police, c'est rien que ça, c'est que je suis rentré avec une image en tête. Je pensais pouvoir faire des enquêtes policières, de traquer le crime. J'ai vite été dans un panier de crabes avec une hiérarchie incompétente, et que j'ai retrouvé à l'armée, la même chose, enfin, donc plutôt de l'armée à la police. Et puis je me disais, c'est pas possible, nous citoyens, qu'est-ce qu'on met notre confiance. Ça, quelque part, ça m'a rassuré. Je me suis dit, les jeunes voix, en tout cas, pourraient être encore en insécurité pendant un certain temps, quand on voit l'inintelligence de certains, et puis c'était pas possible de l'accepter. Donc il m'a fallu du temps. Je dirais que ça, c'est une deuxième démarche. Les compromissions aussi de l'institution me plaisaient pas. Donc je suis rentré en me disant que j'allais tout révolutionner. Tant mieux quand on est jeune. Moi, j'attends de mes enfants qui pensent pareil. C'est-à-dire qu'on va changer le monde.
On attend d'une hiérarchie aussi, qu'elle écoute, qu'elle regarde,
ouais,
qu'elle stimule.
Ça, vous oubliez, en tout cas, Genève. Et puis, en ce qui me concerne, ben voilà, je pensais changer le monde. Et puis le monde, finalement, m'a changé. Et puis moi, j'avais pas grand-chose à amener. En pensant que policier, j'avais beaucoup amené. Et puis voilà, ça me parcourt aujourd'hui, ça me tient, ça me permet de survivre aussi, de continuer d'écrire, de réfléchir là-dessus.
Quelle a été à l'époque votre propre formation à la police? Il y en a eu une, ou ça s'est fait sur le terrain?
Moi,
sur
je
le
suis
tas.
Issu d'école de formation où quasiment pendant 7 mois j'ai repeint le centre de formation, comme j'explique dans le bouquin. Ah oui. J'ai rencontré des vieux baroudeurs de la police qui m'ont fait rêver, et puis j'ai fait du vélo, de la natation, j'étais croché sur leurs chaussures parce que ça déterminait un bon flic.
Ouais.
D'accord, des chaussures de sport me permettaient de penser que ce flic-là allait courir après les méchants. Bien, avec du recul, ça me fait rire parce que le métier policier est un métier d'intelligence, c'est un métier beaucoup plus cérébral qu'on pourrait l'imaginer.
Alors, c'est ce que vous dites. Vous dites que le meilleur outil du policier, c'est sa finesse d'intelligence. C'est pas exactement la phrase, hein. Elle est en quatrième de couverture, ce qui contredit complètement l'image qu'on peut avoir de la police, où on se dit que c'est pas vraiment son intelligence que le policier utilise, c'est effectivement plutôt sa force et son pouvoir d'intimidation grâce à l'uniforme. J'aimerais qu'on revienne sur la formation, parce que vous en avez fait l'un et l'autre et vous continuez à en faire. La formation est un outil très mal accueilli dans la police, et par les hiérarchies, et par les policiers eux-mêmes.
Oui, eh ben, il y a lieu aussi à partir de là de dépersonnaliser, parce que si l'on parle de personnes incompétentes ou pire inintelligentes, c'est pas qu'elles le soient elles-mêmes, elles ont un immense potentiel, c'est qu'elles sont emprises dans un système, ben, je l'ai dit, hiérarchisé, militarisé, qui n'a plus de sens aujourd'hui dans une société de mobilité et de mutation. Donc en effet, la première difficulté d'organisation, c'est le recrutement. Hein, on a l'occasion encore de lire ces jours les difficultés qu'ont certaines polices municipales et cantonales à recruter. C'est aberrant, parce que dans d'autres cantons et dans d'autres pays, c'est le contraire qui se produit. Donc on voit bien que les messages que l'on transmet au potentiel, au public intéressé par la police, varient considérablement, puisqu'on peut éveiller des vocations ou au contraire les restreindre. Et vous discutez avec n'importe quel jeune dans un cycle d'orientation, c'est encore son rêve. Alors, il faut entretenir cela. Mais effectivement, de fil en aiguille, on se rend compte qu'il est écarté par tout un système organisationnel, des critères d'admission, etc. Et on en vient à la formation, c'est votre question. Eh bien, la formation, c'est d'abord déconstruire, se remettre en question pour construire sur des valeurs. Dieu merci, nous sommes en démocratie, en état de droit. Donc, ces fameux arguments policiers qui sont indétrônables. Parce que si le policier ne bâtit pas sa compétence sur ces arguments, il sera très vite dévancé par les bandes criminelles. Pas besoin de faire des dessins pour démontrer que bien des bandes criminelles sont mieux armées, mieux organisées qu'une police cantonale en Suisse. Hein, avec des moyens supérieurs. Donc le policier perd. Oui. Et le policier doit gagner pourtant, puisque nous lui confions la justice, enfin je veux dire pas la justice, mais l'amener en justice. Mmh. On lui confie avec des pouvoirs exceptionnels, exclusifs, de sauvegarder la sécurité, la salubrité, la tranquillité de nos vies. Alors vous vous imaginez, si le policier parie sur la technique, parie sur le sport d'élite, parie
sur les armes,
Mmh. Ben, il est perdant. Non pas que ces moyens-là ne soient pas importants, ils sont même indispensables, il faut qu'il ait les meilleures armes, mais tout cela doit reposer sur des valeurs. Et ces valeurs, eh bien, elles s'argumentent, elles s'entretiennent en formation.
Oui, mais enfin, des formations qui sont apparemment difficiles à faire admettre. Et puis quand il y en a, il y a des phrases terribles dans ce livre que vous écrivez, Patrick Delachaux, et vous les faites tenir par des instructeurs. Il y en a une qui revient très régulièrement, enfin en tout cas vous la citez 3 ou 4 fois, c'est une phrase qui sort de la bouche d'un instructeur qui s'adresse à un jeune stagiaire et qui finalement dit « vous faites ce qu'on vous dit, virgule, on les baisera ». Voilà, vous faites ce qu'on vous dit, on les baisera. C'est qui d'abord ce « les », on les baisera ? On baisera qui ?
C'est une excellente question parce que effectivement j'ai été aussi justement en interpellation. Et d'ailleurs, c'est suite à cette phrase-ci que j'ai écrit le texte que vous avez sous les yeux. Et je disais tout à l'heure, avec les tripes, je l'ai soumis à Frédéric Maillard. C'est assez complexe parce qu'il circule aujourd'hui sur le net d'autres phrases de ce type-là, d'un instructeur par exemple sur Strasbourg pendant les dernières échauffourées de ce 31 décembre qui revendique la gendarmerie en France en disant que pendant que Bobon fait la soupe et la dinde, vous êtes des hommes parce que vous êtes ici au feu et au sang. C'est complètement fou, vous voyez. Donc,
c'est ce que vous appelez la sous-culture policière.
C'est ce que j'appelle la sous-culture policière, c'est-à-dire qu'il y a, une attirance vers le bas, vers la bêtise, la méchanceté, très spontanée dans le sens atavique, animal. Plus précisément, quand vous parlez de cette phrase qui revient en fait à 6 fois dans le texte, quand un policier qui s'adresse en fait à une classe, hein, non pas à un seul
des stagiaires, oui.
Qui dit on les baisera plus, c'est-à-dire que c'est justement indéfini. Et raison pour laquelle je m'adresse à un autre public, des scientifiques, c'est-à-dire que finalement le policier qui se défend d'être un fonctionnaire, nous sommes pas comme les autres, nous sommes pas vraiment dans l'État, nous sommes le bras armé, nous sommes le dernier rang. Enfin, de toute façon, après la police, il n'y a plus rien dans l'esprit de ces gens-là. Ils oublient complètement qu'une police dite de proximité, démocratique, c'est une police qui doit s'associer avec d'autres forces pour être forte et de faire la sécurité. Je me permettrais de paraphraser Clémenceau qui disait que la guerre est trop importante pour la laisser en main des militaires. Je me permettrais de penser que la sécurité est trop importante pour la laisser en main des policiers. Et ce type de phrase me fait peur.
Mmh. En fait, Frédéric Maillard.
Oui, je voulais rebondir parce que c'est là tout l'enjeu. En effet, je dirais que c'est ce qui m'attriste, c'est de voir des policiers qui négligent leur adaptation dans la société et qui, peut-être sans le savoir, vont à leur perte. Alors, si la police va à sa perte, elle laisse place à nombre de groupuscules privés qui n'obéiront pas à notre constitution, qui n'obéiront pas à ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, ces valeurs fondamentales, qui obéiront à des pouvoirs économiques, informatiques ou que sais-je. Et donc, notre sécurité se fragmente. Elle n'a plus de médiateur et tous les acteurs sociaux dont la police est capable de réunir aujourd'hui vont se disperser. Rien de bon, donc, à présager pour notre futur. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, que je peux que me rallier aux propos d'Yves-Patrick Delachaux pour tirer la sonnette d'alarme.
Oui, vous vouliez dire.
Aujourd'hui, à Genève, il y a près de 5000 agents de sécurité privée qui tournent, qui assurent la sécurité des citoyens.
Ce qu'on appelle les Securitas, c'est tout ça ?
Ça, c'est une entreprise,
marque,
mais d'agents de sécurité privée. Ouais. Il y a à peu près 800 gendarmes, 200-300 inspecteurs avec de la police sécurité internationale, en gros 1200 policiers. Ils ne sont plus sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde et les missions sont données à des entreprises privées. Oui. Quand même un conseiller d'État en retraite aujourd'hui, depuis quelques mois, permet à des entreprises privées d'agir, notamment dans le quartier des Paquis, c'est un abandon. C'est une... C'est une insulte.
J'allais dire,
ce sont des voyous.
Un corps de police, bah, vous pouvez le dire. Ce dont on s'aperçoit, et je parle encore un peu de formation, après on changera de sujet, mais on s'aperçoit que personne ne parle à ces jeunes stagiaires qui vont qui seront 7 mois plus tard, 1 an plus tard, les policiers dans les rues.
Un an aujourd'hui,
à nous interpeller en voiture, etc. Donc on ne leur parle pas, ni de leur rôle, ni de leur mission. Ni de leur place dans un état de droit. Alors, vous le dites, ce n'est pas un livre écrit contre vos collègues ou vos futurs ou vos ex-futurs collègues qui sont finalement, on le voit bien à quel point, victimes de tout un système. Mais tout de même, et c'est là que vous le dites, hein, que la principale ressource d'un policier, c'est son habileté intellectuelle. Oui, ce n'est pas vraiment ce que vous nous présentez, en fait. Vous ne nous présentez pas des policiers de base armés de leur plus bel outil qui serait leur habileté intellectuelle, mais des victimes d'un tout un système.
Un policier aujourd'hui à la retraite me disait, je le cite dans le livre, je suis sorti de la police plus bête que quand je suis rentré, c'est triste, mais il y a une organisation qui rend imbécile parfois et les résistants sont peu nombreux, mais je reçois énormément de courriers aujourd'hui par courriel, donc par informatique, qui de soutien et notamment de policiers suisses, et ça me fait bien plaisir. C'est pas simple parce que effectivement, quand je parlais tout à l'heure de la police qui se sent autre que fonctionnaire, je pense que l'enseignement, la police et d'autres, le médical, le social, sont effectivement des professions de foi, des professions qui demandent un investissement tout à fait particulier et pas souvent valorisé. Vous savez, dans mon parcours de 17 ans, j'ai connu trois de mes chefs de groupe qui ont choisi de se donner la mort. Donc en même temps, et pourtant qu'à Genève, ça m'a beaucoup touché parce qu'ils sont partis, ces gens-là, quoi.
Oui,
je voulais peut-être juste apporter une petite nuance. C'est qu'on parle du rôle et de ses valeurs. On en parle, mais par obligation. C'est-à-dire que depuis l'imposition du brevet fédéral à fin 2004, le Conseil fédéral a dicté un nouveau programme obligatoire pour l'obtention du brevet fédéral. Et dans ce cadre-là, une des branches obligatoires, c'est les sciences humaines, donc les droits humains, l'éthique. Alors on en parle à cette occasion, mais ce qui est grave, c'est qu'on n'y croit pas. Je veux dire, structurellement, on n'y croit pas. Bien sûr, vous trouverez de nombreux policiers qui y croient, de nombreux policiers qui sont brillants, intelligents. Mais écrasés par cette structure sclérosée, leur intelligence ne se développe pas.
Pire encore, je ne sais pas s'il y a pire, mais vous abordez aussi, et on comprend mieux, la réaction d'un instructeur qui dit... qui dit ce qu'il dit, on les baisera, quoi. Faites ce qu'on vous dit,
tous.
Et on les baisera tous, peut-être, oui. Et beaucoup d'autres choses aussi. Je repense à un exemple que je trouve en même temps assez charmant et très explicite. C'est toujours un instructeur, mais enfin, c'est très important, les instructeurs. Enfin, il me semble que c'est très important, les instructeurs. Et qui dit, voilà, avant que vous n'entriez dans la police, hein, avant, quand vous voyiez un couple sans casque sur une mobylette, bon, c'était un couple sans casque sur une mobylette. Maintenant, flic, quand vous verrez un couple sans casque sur une mobylette, ce sera un couple de délinquants. C'est terrifiant parce
que l'ambiance.
Mais non, mais
c'est le premier jour d'accueil.
C'est pas un couple de délinquants, c'est un couple en danger qu'il faut préserver, dont il faut préserver la sécurité.
C'est pour ça que je me permettrai de faire une nuance, c'est-à-dire que quand vous dites que les instructeurs sont importants, je crois que les instructeurs n'ont plus leur place dans la formation de la police. Il faut des formateurs, et c'est justement ce que je me permets de ressortir dans cet essai qui me semble être en tout cas soutenu par des scientifiques, c'est que toutes les professions sont représentées par des policiers dans la police, et quand des instructeurs qui ne sont que des instructeurs n'ont aucune formation en tant que formateurs, ils se permettent de faire des choses inadmissibles. Idem pour les ressources humaines de la police. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, ce soit des policiers qui soient aux ressources humaines. Pareil pour la communication. C'est inadmissible que des policiers s'occupent de communication. Pareil pour la direction de la police, où je demande des managers qui ont la science du management, qui connaissent les hommes et les femmes, qui constituent des corps. Et puis, il ne suffit pas d'avoir été peut-être un bon flic sur le terrain pour accéder à des classes salariales très élevées et puis d'avoir des responsabilités auxquelles ils ne savent pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, notamment la police genevoise, tous les postes sont occupés par des policiers par compromission. Peut-être quelques-uns ils échappent. J'ai eu la chance d'être soutenu par un policier psychologue, directeur, officier spécialisé en psychologie, qui est certainement dans les seuls, qui a fait des longues études pour faire un lien entre sa pratique policière et la psychologie. Donc je lui rends hommage ce soir. À part lui, j'en connais pas beaucoup qui peuvent prétendre à leur poste dans leur juste valeur.
D'ailleurs, vous insistez beaucoup aussi sur le manque absolu de considération, et pas seulement évidemment dans la rue, ça je pense que vous êtes habitué, mais en interne surtout, dont sont victimes les collègues, des manques évidents de respect en interne. Ça peut donner quoi ça en termes de management dans n'importe quelle entreprise que l'irrespect d'une hiérarchie à l'égard de ses employés?
Alors, c'est
des catastrophes, je suppose.
Ben oui. C'est une pathologie institutionnelle. C'est d'abord une conséquence.
Harcèlement divers.
Les propos tenus par des policiers en exercice, pas par tous évidemment, hein, toujours bien nuancés nos propos. Certaines insultes, certaines injures auxquelles je suis amené, je ne trouve pas mes mots parce que c'est bouleversant. Hein, de la part de personnes qui doivent montrer l'exemple, c'est bouleversant. Alors, c'est une conséquence de l'isolement. Voilà, on y est. C'est-à-dire que si on veut baiser tout le monde et tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont différents de nous, on est dans une ségrégation, c'est l'isolement institutionnel. Ça veut dire que l'institution, consciemment ou inconsciemment en certaines circonstances, préserve l'exception du corps armé, uniformé qu'est la police. Voilà. Et c'est ça qui doit éclater d'urgence. Mmh. D'urgence. Et puis ainsi, nous pouvons retravailler les fondements, les valeurs du métier. D'ailleurs, on pourra se réjouir parce qu'on trouvera de nouveau des policiers qui auront l'élan, le courage et la dextérité aussi du geste. Parce que, je vais vous dire, j'observe jusque dans le geste de l'interpellation coercitive, hein, le policier qui doit mettre au sol une personne dangereuse et la menotter, clé de bras, la menotter, jusque dans ce geste-là, j'observe une diminution d'efficience parce qu'il y a justement ce malaise dans l'institution. Donc il y a des conséquences concrètes. Il faut y remédier rapidement.
Et comme partout, comme en beaucoup d'endroits en tout cas, la police, mais ça paraît complètement martien, la police est aussi entrée dans l'ère de la productivité et du rendement. Et il y a des témoignages. Hein. On ne nous demande plus d'avoir un comportement de policier, mais un comportement de commercial. Je vous cite là, hein, d'interpeller tout et n'importe quoi. Donc en gros, on leur demande de faire du chiffre. C'est quasi insupportable à entendre pour des citoyens, par exemple.
Mais tout à fait.
Parce que ça vide l'acte de tout sens.
Précisons que ça, ce sont une analyse française. Hein. Puis encore une fois, je travaille pas mal sur la France aujourd'hui. Et puis effectivement, donc sous l'ère du président actuel, en fait, qui était Premier ministre, il y a une question d'efficacité au niveau du chiffre qui a été mis en place. D'ailleurs, démantèlement de la police de proximité.
Le ministre de l'Intérieur, non ?
de l'Intérieur, vous avez raison. Oui.
Et donc ministre de la police.
De la police, à l'époque, monsieur Sarkozy.
Il en connaît un rayon.
Tout à fait. Et puis, ce qui m'a terrorisé, c'est que on est en 2002. Et en 2002, Genève s'allie sur le démantèlement de la police de proximité. Voilà. Donc, l'exemple que vous prenez ici est effectif en France. C'est pas tout à fait comme ça en Suisse, ni même à Genève.
Encore.
Non. Mais vous savez, il y a des choses qui m'effrayent. C'est-à-dire que, par exemple, l'uniforme aujourd'hui qui a été choisi en Suisse et à Genève, c'est un uniforme de maintien de l'ordre que je portais il y a 10 ans dans les manifestations. Aujourd'hui, les policiers le portent tous les jours. L'uniforme que je portais à l'époque, que mes camarades portaient avec une cravate boutonnée, oui. Qui avait de l'allure, de la gueule, avec une vraie casquette, parce qu'une casquette couvre un chef, hein, c'est un couvre-chef, aujourd'hui a disparu. Je les vois en patin à roulettes sur le bord du lac, ça me fait hurler de rire, parce que qu'est-ce qu'on veut faire, quoi, ressembler aux jeunes, et puis on croit que c'est comme ça qu'on va s'approcher des gamins, ça me fait hurler de rire. Je parlais tout à l'heure des motos noires que la police genevoise a choisi dans les commissariats. C'est juste effrayant. J'ai connu ça en Argentine, à Buenos Aires, et c'est juste fou.
Avant, donc, elles étaient blanches.
Avant, elles étaient blanches. Alors, il y en a encore quelques-unes.
Le blanc,
qui
c'est...
se permet aujourd'hui, au niveau politique, d'accepter que la police genevoise chevauche des motos noires? C'est inadmissible.
C'est un voyou, donc. C'est toujours la même chose.
Vous voyez la charge symbolique institutionnelle. Hein. Le blanc, c'est la paix. Le noir, c'est plutôt le sombre. C'est la guerre. Ouais. Voilà.
Alors, je vais vous donner... Hells Angels. C'est, voilà.
J'ai été interpellé dans la rue, en marge des événements récents G8, parallèle de la manifestation anti-G8, d'un coopérant international, diplomate de formation, de retour de l'étranger, débarque à Genève, se trouve dans la rue et voit ces motos noires, voit ces policiers, deux sur la moto, on se croirait à Mogadiscio, j'entends, deux sur la moto, celui qui est derrière avec un fusil de projection, de
flashball,
etc., des allures comme ça de pantin, à Genève, sautillé sur les trottoirs, il a été effrayé. Mmh. Il a interpellé son entourage pour savoir ce qui était en train de se produire dans ce pays. Vous vous imaginez l'image que l'on donne? C'est pas l'image d'une maîtrise, c'est l'image d'une non-maîtrise. Mmh. On se fait un autogol. C'est très grave.
Bon, on a rien abordé de ce que vous écrivez, parce que c'est extraordinairement foisonnant, vous l'avez dit, hein, c'est sorti en jet, comme ça. Donc il y a énormément de choses à dire encore.
Et ça fait que de commencer.
Et ça fait que de commencer. Très bien, la conclusion, en tout cas, de votre témoignage, c'est celle d'un de vos collègues, qui dit « Je ne supporte plus l'absurdité de ma carrière », ce qui est un constat totalement décourageant, voire même effrayant. Quant aux solutions... Bon, vous avancez quelques pistes et quelques analyses, Frédéric Maillard, mais finalement, alors vous allez nous dire, parce que je n'ai pas tout compris, mais rien de très tangible, en tout cas dans ce livre, face à la dégradation de la situation, si on en croit Yves-Patrick Delachaux. D'une part, vous confirmez évidemment que les choses vont mal, mais quant aux solutions, comment dire, on a l'impression, ce que vous dites est très juste, on sent que c'est de la vraie science, que tout ça a été expérimenté, que vous savez de quoi vous parlez, mais ça ressemble à un cautère sur une jambe de bois, en l'état des choses. Après le constat, il me semble que les solutions paraissent dérisoires.
Oui, pour deux raisons. D'une part, les solutions faciles sont dangereuses, donc elles n'existent pas. Mmh. Et puis d'autre part, par respect pour tous les policiers, parce qu'en même temps qu'on est très critique sur l'appareil, sur l'organisation, eh bien, nous devons à cette police qui sauve sur l'autoroute, se dresse et vient à notre secours quand tous les acteurs sociaux ont échoué, au cœur de la nuit. Alors, on lui doit beaucoup à cette police. Donc vous voyez le dilemme, hein, à la fois un métier admirable, avec des personnages admirables, et puis une organisation qui a de la peine à soutenir ces personnes, de la peine à les servir pour qu'à leur tour, elles puissent servir la collectivité. Mmh. Donc c'est au fond la raison pour laquelle il n'y a pas de solution toute faite. Néanmoins, je dresse des pistes parce que les pistes impliquent que la police s'en mêle. Vous vous imaginez si de l'extérieur, l'on présente des résolutions à la police? Avec tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, elle va encore plus et encore davantage s'enfermer et les rejeter. Mmh. Il faut avec elle trouver ces solutions. Alors, il y en a quelques-unes que l'on met déjà en pratique, Yves-Patrick Delachaux et moi-même, avec d'autres policiers qui ne figurent pas dans ce livre parce qu'on ne voulait pas faire un livre de recettes. ce serait dangereux, au fond.
C'est du cas par cas, après.
C'est du cas par cas, c'est de l'adaptation. Mmh. Par contre, les pistes qui sont présentées dans ce livre sont des pistes extrêmement réalistes qui mettent côte à côte le policier et l'expert extérieur. C'est la pluridisciplinarité qui sauvera la police, si je peux me permettre. Mmh. Sauver, entre guillemets. Mmh. Alors, c'est pour ça que ces pistes, elles n'apparaissent pas si, de manière si évidente. Néanmoins, il y en a trois avec des modélisations qui sont concrètes et qui ont été élaborées avec les policiers. Donc, les policiers participent à la réforme. On veut les impliquer.
Vous avez eu des réactions de la part des diverses hiérarchies de l'état-major, comme on dit, de la police, après, à la sortie de ce livre?
Ça commence, puisqu'il y a un gros mois que ce livre est sorti.
Il
faut le temps de le lire. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, hein, après je passe la parole à Frédéric Maillard, quand j'ai fait du roman, j'avais l'adhésion parce que je ne touchais pas forcément l'organisation. Aujourd'hui, je me permets de rentrer sur un autre champ. Je reçois beaucoup de témoignages de policiers de base qui louent notre démarche.
Enfin, quelqu'un qui dit tout ce qu'on pense.
Et puis qui propose. Là, c'est la partie de Frédéric Maillard. Par contre, ces dernières semaines, ces derniers jours, ce matin encore, je dirais qu'au niveau des hiérarchies, des plus hauts placés, semble-t-il que vis-à-vis de moi, ça fait très mal. Voilà, on m'a demandé de me méfier même, parce que mais ils se préparent certaines choses, on verra bien. Ben, vous savez, on fonctionne comme ça dans la police. Il y a quelques temps, j'avais ma photo dans un commissariat avec trois impacts de balles dans le front. Bon, youpi. Mais enfin, c'est amusant. Moi, ça, bon, voilà, ça fait partie de mon métier, c'est pas important. Mais voilà, j'aimerais quand même dire de choses extrêmement positives. C'est qu'à Genève aujourd'hui, comme dans certains autres cantons d'ailleurs, je loue la ville de Lausanne qui, depuis de longues années, a eu une rencontre entre les syndicats, les policiers. Et puis sa politique, je loue aussi Neuchâtel avec des gens bienveillants et une nouvelle police, une organisation de la police. Je pense notamment à Berne qui aujourd'hui permet à des policiers de plus de 40 ans d'entrer dans la police. Ça me touche de façon très forte. Aujourd'hui à Genève, il y a un nouveau gouvernement. Il y a un président du Conseil d'État qui est M. Longchamp, qui est quelqu'un d'intelligent. Il y a Mme Isabelle Rocha, une femme. J'aime beaucoup les femmes et je crois beaucoup en leurs compétences. Elle peut rester dans l'histoire si elle le prend en main. Et ils prennent en main la police genevoise sans nécessairement avaler ce que va leur faire passer la direction de la police.
Vous n'avez jamais postulé à la direction de la police?
Je ne pense pas en avoir les compétences. Je suis sur un autre champ.
Vos supérieurs non plus, vraisemblablement, d'après ce que vous dites alors.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est une question de changer forcément des têtes. À titre personnel, ça me ferait peut-être plaisir, ça flatte mon égo. Mais je ne crois pas que c'est utile aujourd'hui. Les gens qui sont en place sur certains aspects ont une forme d'intelligence. Et l'organisation est défectueuse. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation d'appel Napoléonienne qui a en tout cas 200 ans d'histoire. Vous changez aujourd'hui chefs, c'est simplement pour plaire peut-être aux médias et aux citoyens, mais il n'y aura aucun effet. Aujourd'hui, c'est de la base au haut, il faut absolument réformer, s'atteler à des réformes que des personnages comme Frédéric Maillard sont capables d'amener dans les polices, et puis éventuellement rediriger des personnes qui dans les directions sont inadéquates. Aujourd'hui, couper des têtes, c'est inutile dans la situation actuelle.
Mmh. Oui, et puis je dirais que c'est pour le moins un collège aujourd'hui qui doit diriger la police. Un collège pluridisciplinaire dans lequel on devrait même y trouver un philosophe, vous voyez ? Un philosophe, un policier expérimenté, un sociologue, voilà, et puis un criminologue, que sais-je. Voilà.
Un expert en management d'entreprise.
Mais certainement, en ressources humaines pour être
en
plus
formation,
précis.
S'il vous plaît.
En formation aussi.
Voilà, c'est ça. Moi, je profite aussi parce que la 200aine de témoignages que nous avons enregistrés jusqu'à aujourd'hui sont tous très positifs. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui sont très hostiles à cette initiative. Elles sont restées dans l'anonymat, elles crachent leur venin sur quelques blogs. Moi, j'aimerais qu'elles s'adressent à nous parce qu'on a besoin aussi d'eux. On a besoin aussi de qu'ils nous montrent ce qu'ils peuvent pas entendre de ce que nous avons dit et qui est pourtant dit et témoigné par beaucoup. J'aimerais aimerais avoir cette confrontation. Moi, je regrette quoi. Je regrette que Yves Patrick ne soit pas prophète en son pays. Je regrette que toutes celles et ceux qui sont critiques négatives se cachent dans l'anonymat et n'osent pas nous affronter. Mais qu'ils viennent, parce qu'on a besoin d'eux.
Merci infiniment. Enfin, je ne sais pas si je dois le recommander, parce que ça, vraiment, ça fait peur. Mais enfin, lisez-le tout de même. Peut-être pas si vous êtes jeune voix. Je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Numéro
on
de décembre.
On s'adresse aux polices européennes.
Hein. Oui, justement.
Et vous visitez nos sites.
Oui, mais enfin, on sent bien que Genève, quand même, est au cœur, du démarrage d'un
processus
de réflexion.
C'est un lieu de départ, oui. Mais alors vraiment,
Genève est internationale et diplomatique.
La perspective est large.
Oui, on est bien d'accord. Mais enfin, Genève a servi de point de départ, quand même.
Ethnographiquement parlant, oui.
Oui, numéro de décembre 2009 de la Revue économique et sociale sous le titre « Police, état de crise, une réforme nécessaire ». Yves-Patrick Delachaux et Frédéric Maillard, merci infiniment.
Merci à vous.
Merci
bon
à vous
courage,
de nous recevoir et,
puis, alors,
et nous donner
vous,
la parole, parce que la parole, c'est un rempart.
Mais vous dites que vous détestez les médias, vous avez tort.
Vous rigolez ou bien j'adore les médias.
Il y a la police,
la police, les médias,
la police
le social.
Les médias. Peur des
et pourtant, on
et
est
pourtant.
Les deux corps de métier sur le terrain.
Exact.
On souffre.
Je vous propose de finir en écoutant un extrait très court d'ailleurs de la bande originale de la série télévisée Bad Things. Vous connaissez ça ? Bad Things ? Ça doit être une série policière.
Tout à fait, ouais. J'ai très peu de temps de regarder la télé parce que j'écris.
On écoute.
When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay.
J'espère juste que je pourrai sortir tranquillement avec ma voiture sans me faire agresser par un policier, vous êtes sûr ? Il n'y a pas de souci.
On a plein de PV sur la bagnole, tu vas voir ça.
Parfait. C'est la fin de cette émission préparée avec des collaborations de Stéphanie Gocci pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Marie-Claude Cudry qui était en régie. Après les informations drôles d'histoire choisies et présentées par la très enchevinée Lolita, il est 21h. 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 Il est 21h.